Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de votre fidélité. Comment encourager la participation de la femme dans le processus électoral? On en parle dans quelques instants avec Madame Sonia Kamitatou, sénatrice, qui est déjà en ligne. Madame Sonia, bonjour. Madame Sonia, vous êtes en ligne, bonjour. Mais on va la retrouver dans quelques instants. Vous voulez participer à cette émission? Vous avez des questions et préoccupations? Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Vous pouvez aussi poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation. Avec Marc Chata au micro, Jody Daniel Kachama, excellente condition d'écoute.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bien, comment encourager la participation politique de la femme, surtout dans le processus électoral? Vous savez, la participation de la politique de la femme reste faible, malgré quelques avancées enregistrées depuis quelques années en République démocratique du Congo. Par exemple, la liste des candidats présidents de la République rendue publique par la Cour constitutionnelle n'a enregistré que 2 femmes sur les 26 candidats. Alors comment justifier cette disproportion? Est-il nécessaire de continuer à voter des lois en faveur de la femme? Comment les femmes candidates aujourd'hui battent campagne? Est-ce qu'elles sont nombreuses ou pas? Eh bien, on aura des réponses à toutes ces questions. Avec notre invitée, nous avons en ligne Madame Sonia Kamitatou. Elle est sénatrice. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Alors, la première question est de savoir, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de votre parcours politique?
J'ai fait mon entrée en politique en 2015 dans la coordination des jeunes du parti Alliance pour le Renouveau du Congo. Mmh. Ensuite, j'ai évolué dans le G7, groupe des 7 de l'opposition. En 2019, j'ai été élue sénatrice de la province du Kwilu. Étant parmi les plus jeunes sénateurs, j'ai été au bureau provisoire comme rapporteur. Ensuite, j'ai été élue rapporteur adjoint du bureau définitif. Actuellement, je suis membre d'Ensemble Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et je suis dans la coordination de la ville de Kinshasa.
Voilà. Et puis, vous êtes aussi candidate à quel scrutin?
Je suis candidate députée provinciale de la circonscription de Boulungu dans la province du Kwilu.
Bien. Alors, parlez-nous par exemple de la préparation. Avant de parler de la campagne, revenons d'abord à cette grande question, la participation politique de la femme. On a vu par exemple sur la liste le nombre de candidats à la présidentielle, il n'y a que 2 femmes sur les 26 candidats. D'après vous, qu'est-ce qui peut justifier cette disproportion?
La disproportion vient d'un manque de courage, je pourrais dire, et de volonté de la femme. Toutes les lois ont été votées, j'ai été parlementaire, je suis parlementaire en faveur de la femme, la loi sur la parité, et donc il faudrait plutôt encourager les femmes à s'investir en politique. C'est une question de courage.
Question de courage. Et pourquoi les femmes, malgré toutes les lois, pourquoi elles n'ont pas toujours ce courage? Pourquoi il n'y a pas toujours cet effort pour s'engager?
Bon, le constat personnel que je fais, c'est que souvent la femme est mise de côté, c'est souvent les hommes qui sont mis en avant. Et tout commence par l'éducation. Quand vous venez à l'arrière-pays, vous voyez que dans les familles, on promouvoit plus les jeunes garçons que les jeunes filles. Les jeunes filles, les jeunes femmes sont souvent mises de côté ou mariées parfois avant l'âge et n'ont pas le temps d'avoir l'éducation nécessaire peut-être pour pouvoir penser demain occuper des grandes fonctions ou participer activement à la politique.
Voilà. Et certains pensent que c'était plutôt un problème peut-être de moyens parce qu'il fallait payer la caution et c'est pas tout le monde qui dispose disposait de cet argent-là.
Est-ce que c'est un problème de caution aujourd'hui? Parce que quand nous avons voté la loi électorale, j'étais membre de la commission PAJ et à ma connaissance, toutes les listes qui avaient 50% de femmes ne payaient pas. Mais bon, sur terrain, on voyait plutôt que les hommes essayaient de s'imposer et on mettait souvent les femmes de côté. C'est ça la problématique.
Malgré que c'est l'article 13 de la loi électorale qui stipule que la liste qui aligne 50% des femmes au minimum dans une circonscription est exemptée du cautionnement. Malgré cela, les hommes mettent toujours les femmes de côté.
Malgré cela, les hommes essayent toujours de s'imposer par rapport aux femmes. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est aux femmes de montrer le courage et de s'imposer pour pouvoir participer activement.
Bien, et qu'est-ce qui doit être encore fait pour encourager la participation politique de la femme? Certains parlent même vont jusqu'à parler des discriminations positives. Il faudrait qu'il y ait, par exemple, des quotas, un système de quotas. On dit, voilà, il faut qu'il y ait autant de femmes, qu'on impose un système de quotas.
Oui, le système de quotas peut être imposé, mais encore, il faut le respecter. Et je pense que les femmes doivent plutôt s'imposer, elles, aujourd'hui. Et nous, les femmes qui sommes déjà, qui évoluons en politique, nous devons sensibiliser les autres femmes à pouvoir avoir ce courage-là de s'imposer et de participer à la vie active en politique et dans les décisions du pays.
Voilà. Au niveau du Sénat, par exemple, combien de femmes parmi les sénateurs? Dans l'ensemble?
23 sénatrices. Nous étions à 23 sénatrices. Et c'est déjà une évolution positive. Au bureau, sur 7 membres du bureau, il y avait 3 femmes. Donc ça montre déjà qu'on est en train d'aller vers l'émergence de la femme dans ce milieu-là.
Bien. Alors, par rapport aux élections actuellement, est-ce qu'on peut penser qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes candidates à tous les niveaux?
Oui, je vois plusieurs femmes candidates à tous les niveaux. Bon, à la présidence de la République, il y a 2 femmes que j'encourage beaucoup d'ailleurs. Et ici, à l'intérieur où je suis à Bulungu, dans la plupart des listes, ils ont respecté et aligné 50%. Pour la plupart, pas toutes les listes, mais pour la plupart. Et je vois les autres femmes battre campagne, je les encourage.
Bien. Alors, dites-nous, par exemple, comment est-ce que vous avez préparé votre campagne et comment ça se passe? Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités?
Bon, aujourd'hui, le Congo est représenté par 57... La population est représentée de 57% de femmes. Et quand les femmes vous donnent leur parole, elle est toujours respectée. Donc, de ce côté-là, la campagne, on la fait activement. On demande aux femmes de se présenter au bureau, de voter massivement, parce qu'on a tendance à voir qu'il y a un petit découragement. Et le jour du vote, beaucoup peut-être seront absents. C'est de ce côté-là. Sinon, par rapport à la campagne électorale, moi qui suis à l'intérieur, on a des difficultés de mouvement. Les états de route sont délabrés, c'est un peu compliqué, mais sinon on se bat, on essaye de faire voir notre vision pour un Congo meilleur.
Mais pour certains, beaucoup de candidats n'ont pas de moyens parce que les leaders, les chefs du parti n'ont pas financé.
Bon, c'est vrai que tout le monde a besoin d'un financement, au moins du minimum pour la campagne. Mais si les moyens ne sont pas là, bon, on fait avec et on sensibilise la population. Avant de parler de moyens financiers, c'est la vision d'abord. Et puis le reste, bon, on essaye de faire avec les moyens qu'on a.
Bien, restez avec nous, Madame Sonia. Nous allons accueillir Madame Caroline Pindi, qui est aussi candidate à la députation nationale. Madame Caroline, bonjour. Bonjour Madame Caroline.
Bonjour, bonjour, je vous écoute.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service qui s'intéresse à la participation politique de la femme. Alors pouvez-vous nous parler d'abord de votre parcours politique?
Oui, je suis Madame Caroline Pindinora, je suis architecte de formation. J'ai plutôt évolué dans la société civile parce que j'ai dirigé deux associations. Mmh. La première, l'association des femmes architectes du Congo. J'ai lâché la main juste cette année. Et ensuite, je continue à gérer ma propre ASPEL, Mille et un espoir, qui milite pour les droits des femmes. Et à part cela, je suis également ambassadrice à la Jeune Chambre internationale. Et je travaille également comme membre du G100. G100 et où je suis responsable du département de lutte contre les violences domestiques. Donc j'ai principalement évolué dans la société civile, mais je me suis dit bon, il faudrait quand même qu'on amène notre combat dans des instances de prise de décision. Voilà pourquoi j'ai postulé à la députation nationale pour la circonscription du Mouamba au numéro 227. Voilà.
Bien. Alors, parlez-nous de la participation politique de la femme. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a une évolution ou bien il y a encore beaucoup de choses à faire?
Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution. Elle est peut-être maigre, mais elle est là. Les femmes, il y en a un peu plus aujourd'hui qui ont postulé. C'est vrai qu'on est juste à 17%, mais c'est déjà bien. Il faudrait qu'on continue à sensibiliser davantage les femmes. Mais on comprend aussi qu'il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses font que les femmes ne puissent pas postuler justement ou s'engager dans la politique. Mmh. Il y a notamment les sous, les moyens. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de partis politiques n'ont pas soutenu leurs candidats. Et les femmes, c'est encore pire parce que bon, beaucoup n'ont pas de revenus, n'ont pas d'argent. Et la plupart des partis politiques ont enrôlé des femmes juste parce qu'il fallait à atteindre un certain seuil, et elles ont attendu de leur côté, en retour, qu'on puisse les prendre en charge. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Donc il y en a beaucoup qui sont là, qui n'arrivent pas à battre campagne parce qu'elles n'ont pas les sous. Et pourtant, leurs leaders, leurs présidents de parti, les ont poussés justement à postuler. Et ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème, c'est le fait que la politique est un peu comme un sujet tabou pour les femmes. Les femmes qui font de la politique sont très mal vues. On a l'impression que ce sont des femmes qui sont légères. On a l'impression que ce sont des femmes qui n'ont pas beaucoup de valeurs par rapport des valeurs religieuses. Vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup de choses en fait, des raisons qui font que la plupart des femmes ne puissent pas postuler justement. Donc c'est un peu ça. Voilà.
D'accord. Alors, mais par rapport par rapport à la loi électorale. L'alinéa 2 de l'article 13 stipule que la liste qui aligne 50% de femmes au minimum sera exemptée du paiement de la caution. Est-ce que la plupart des partis politiques ont respecté ce quota-là des 50% et ont aligné les femmes sur leur liste?
Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir ces 50% de femmes qui ont postulé. C'est justement là le problème. Ils ont essayé justement d'aligner le maximum des femmes, mais encore là, il y a encore le problème des femmes qui n'ont pas pu justement se prononcer ou oser aller en politique. Donc il y en a pas qui ont pu aligner en fait 50% de femmes. Non, il y en a pas. Il y a également un problème de confiance hein, pour ceux qui ne sont pas non plus arrivés à aligner beaucoup de femmes. Mmh. Ils n'ont pas confiance, beaucoup n'ont pas confiance aux femmes. Et lorsqu'ils enrôlent ou elles prennent les femmes dans leur parti politique, c'est pour qu'elles fassent le dialelo. C'est pour qu'elle fasse le dialelo. C'est pas pour qu'elle puisse occuper justement des postes de direction. C'est pas non plus pour qu'elle puisse, être, formée justement à gérer la chose publique. Parce que c'est ça aussi le problème. La plupart des partis politiques doivent fonctionner comme des pépinières, comme des incubateurs. C'est-à-dire quand vous prenez des femmes avec vous, vous avez le devoir de les former, de les rendre compétitives. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Ils préfèrent faire confiance aux hommes plutôt qu'aux femmes, alors qu'en fait, beaucoup d'études montrent que les femmes, les sociétés qui sont, les entreprises qui sont gérées par les femmes, ont de meilleurs rendements. Il faut qu'ils arrivent à faire confiance aux femmes. Parce qu'il y a des femmes qui méritent justement de travailler, et des femmes qui ont des têtes bien faites, qui peuvent travailler pour le bien du pays. Donc voilà.
Bien. Et souvent, au niveau des partis politiques, les femmes se retrouvent seulement dans la Ligue des femmes.
Voilà.
Elles sont là-bas seulement pour les Djalelo, vous avez dit.
Oui, c'est tout à fait ça. Je suis en train de travailler sur une bande dessinée parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mon association, nous faisons de la sensibilisation par le biais de la bande dessinée. Je suis en train de travailler sur une bande dessinée justement qui parle de ça, des problèmes que rencontrent les femmes qui veulent voilà entrer en politique. C'est-à-dire que quand tu viens, ce qu'on te donne comme poste le plus élevé, c'est justement la Ligue des femmes. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les femmes acceptent seulement à prendre ce poste-là de gérer la Ligue des femmes. Non. Tu n'entends, c'est très rare de trouver une secrétaire générale, un secrétaire général femme ou une vice-présidente femme. C'est très, très rare. C'est vraiment rare. Et j'ai comme l'impression que même ces femmes-là se sous-estiment et elles-mêmes préfèrent être justement dans, voilà, occuper ce genre de poste. Et c'est bien dommage. Il faut continuer encore à parler aux femmes, à les sensibiliser, à les outiller et à les pousser à avoir confiance en elles.
Bien, on va accueillir Maître Marc Gallo de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody, et bonjour aux deux dames qui sont vos invitées.
On vous écoute.
Merci, Monsieur Jody. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont bougé le monde. On parle de Teresa de Calcutta, dont la renommée dépasse même la reine d'Angleterre. On parle de Kimpavita. On parle de Philomène Omatuku, cette dame qui a bien géré l'Assemblée nationale. Je veux même citer Eve Bazaïba, même les deux dames que vous invitez. Ça démontre qu'à ce jour, la femme a des capacités pour agir. Mais qu'est-ce qui fait que les taux de participation dans la vie politique soient faibles? Premièrement, c'est l'inconscient de la femme elle-même. Aujourd'hui, si les hommes sont encore indifférents et méchants, c'est par rapport à l'image qui représente la femme africaine. Les femmes que vous recevez, elles sont là, elles ont des lobbies, des groupes sociaux pour militer contre leurs droits. Je n'ai jamais vu les femmes se réunir, se liguer pour lutter contre les antivaleurs qui les salissent. Dans les clips de musiciens, comment on a abruti la femme? Dans le théâtre congolais, dans les TikTok, dans les réseaux sociaux. L'image de la femme est tellement bannie, à tel point que même dans la vie politique, on ne fait pas confiance. Les femmes doivent prendre conscience, commencer par se battre, même en cours de route. La loi interdit d'exhiber ses parties intimes lorsqu'on se promène. Comment s'habillent les femmes congolaises? Le vrai combat commence par là. L'image de la femme est tellement salie, on ne lui fait plus confiance. Des deux, il y a un problème d'opportunisme. Pour s'engager, la politique n'est pas une profession, c'est un apostolat. Est-ce que ces femmes qui postulent ont la conviction? Est-ce qu'elles ont une vision? Est-ce qu'elles ont des objectifs? Est-ce qu'elles ont la mission? Si vous demandez à vos invités quelle est leur mission lorsqu'elles veulent postuler, quelle est leur vision de la vie, quels sont leurs différents objectifs, quelle est leur conviction, à quoi elle est fondée, quelle est leur idéologie, elles ne vous diront pas. Donc les femmes viennent. Je dis Kassem Assemblant qu'il a un parti politique, la Penatia Moutou. Il n'y a aucune conviction. Mais toi, je l'ai toujours dit, je vais encore condamner, nous aussi, hommes, quelquefois, nous sommes arrogants et indifférents. Il y a des femmes compétentes comme vos deux invités. Il y a des femmes qui ont marqué ce monde comme de Christelle Wang. Mais est-ce que les hommes leur accordent l'espace? Une dame comme Christelle Wang avait un espace d'expression quand elle passait les émissions. Au niveau du Parlement, elle propose des solutions. Les hommes qui dominent ne la poursuivent pas. Au niveau des partis politiques, pour qu'on vous aligne, il faut que vous soyez soit de la copine du président, soit la concubine de tel ou tel. Peu de femmes seulement accèdent de manière normale. Je l'ai dit avec notoriété, les dames qui sont les invités vont vous condamner. On doit aussi en parler. Enfin, il y a un problème d'éducation, monsieur Jody. Comment on éduque la femme à la maison? La femme congolaise est préparée pour être épouse, est préparée pour procréer. On ne lui dit pas qu'elle a des atouts comme l'homme qui peut réussir. Ça commence au niveau des églises. Beaucoup d'églises n'accordent pas la parole à la femme, sous prétexte que les femmes doivent se taire. Au niveau de l'école, comment? La plupart des chefs de classe sont des hommes. Au niveau de l'UDIA, comment est-ce qu'on prend les animatrices et les chroniqueuses? Donc c'est un tout qui doit être fait pour que nous ayons enfin une vraie participation de la femme. Comme je l'ai toujours dit, pour moi, la mère gestionnaire et la femme, elle a des atouts moraux et intellectuels plus que l'homme du point de vue des gestions. Il faut lui donner. Mais si ces fléaux que j'ai cités ne sont pas rabattus, on tournera toujours en... Voilà.
Merci. Merci, Maître Omar Kigalo. Madame Sonia, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Maître Omar?
Je l'ai dit plus tôt, quand vous m'avez posé la question, tout commence par l'éducation qu'on donne à la femme. C'est la première chose qu'on doit faire sur terrain avec Madame Caroline, c'est sensibiliser les familles à emmener leurs filles à être éduquées, à montrer aux filles qu'elles sont capables et à leur donner ce courage-là, pas seulement dans la vie politique, mais dans tous les domaines. Les femmes sont toujours mises en arrière, elles sont préparées à être des épouses, parfois à être des objets, et c'est le premier fléau. Mais, comme l'a dit Madame Caroline aussi, Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une avancée significative. Moi, quand j'ai été élue membre du bureau, j'étais la première femme à être élue au Sénat, au bureau du Sénat. Ça n'a pas été facile, d'ailleurs. J'avais un homme avec qui je concourais, qui a, c'était vraiment la limite. Mais mes collègues m'avaient donné cette confiance-là, et je pense que j'ai pu faire mon travail correctement. J'ai été correcte sur tous les aspects, et c'est sur cet aspect-là qu'il faut commencer. Et puis deuxièmement, comme l'a dit aussi Madame Caroline, au niveau de nos partis politiques, de nos représentations, aujourd'hui il n'y a pas une ligue des hommes. Je ne vois pas l'opportunité d'avoir des ligues de femmes. Les femmes doivent participer activement à tous les niveaux comme les hommes. C'est un peu ça, mais c'est une question de sensibilisation et d'éducation premièrement.
Bien, Maître Kigalo a dit tout à l'heure que l'image de la femme est ternie dans la société, surtout l'image de la femme politique. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, ça, je crois que c'est une image que les gens veulent vendre. Il y a beaucoup de femmes qui sont en politique aujourd'hui qui sont des femmes correctes, qui ont reçu une très bonne éducation, qui ont fait des grandes études. Mais c'est un peu partout dans le monde que vous voyez que les femmes sont un peu utilisées comme des objets. C'est à nous aujourd'hui, les femmes qui sommes engagées en politique, à sensibiliser nos mères, nos sœurs, nos petites sœurs, nos filles, à changer cette image-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut voir toutes sortes de choses défiler, mais je suis convaincue que avec des sensibilisations, aujourd'hui, on peut changer la donne.
Bien. Madame Caroline, qu'est-ce que vous pouvez dire à Maître Omar Kigalo?
Oui, c'est bien dommage de véhiculer ce genre de discours, parce que moi, je pense que c'est normal que dans une société, il y ait des extrêmes, en fait. Parce que même quand on va dans les réseaux sociaux, on trouve également des hommes qui passent leur temps à danser de manière assez bizarre. Donc ce n'est pas qu'une question de femmes. Non, ça c'est une question vraiment de mœurs ou d'éducation en général dans notre pays. Donc il ne faudrait pas qu'on essaie de mélanger tout le monde. Comme Madame Sonia vient de le dire, il y a des femmes tout à fait respectables qui sont au Parlement ou qui sont en politique. Donc il ne faudrait pas qu'on mette tout le monde dans le même lot. Et quand il dit que les femmes n'ont pas de projet de société ou bon voilà n'ont pas de vision, il faudrait déjà qu'il écoute ou qu'il pose des questions à ces femmes-là. Nous, on peut lui exposer nos projets de société ou notre vision, parce qu'on comprend, on sait que lorsqu'on se lance dans en politique ou lorsqu'on postule, il faut avoir un projet de société.
Madame Caroline, c'est quoi déjà votre projet de société?
Mon projet de société, c'est vraiment autour de la femme d'abord, et après en général de l'homme. Donc mon souci, premièrement, pour les jeunes, c'est d'abord l'encadrement des jeunes, la création de centres de formation pour les jeunes. Deuxièmement, donc j'ai quatre axes. Le deuxième axe, c'est justement les femmes, l'autonomisation de la femme, l'éducation financière de la femme. Le troisième axe, c'est la salubrité publique, la propreté, l'assainissement. Dans l'assainissement qu'on trouve également l'apport en eau et en électricité. Donc il faudrait vraiment militer pour ça quand on sera au Parlement. Et le quatrième axe, c'est justement l'éducation. On va se battre pour que le cours, par exemple le cours de civisme, qui n'occupe qu'une heure de la semaine par semaine à l'école, alors que c'est un cours qui, c'est ce cours-là qui permet en fait à l'enfant à devenir un citoyen, il faudrait que ce cours soit dispensé au moins 5 fois par semaine. Mmh. C'est très important qu'on parle de ça. Aujourd'hui on parle de changement de mentalité, mais ça commence à l'école, ça commence à la base. On nous apprend, je ne sais pas moi, l'histoire de Jeanne d'Arc ou la Révolution française. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On a besoin d'apprendre à nos enfants à devenir des vrais citoyens. Et ça commence à l'école. Également, c'est pareil pour le cours d'égalité de sexe. Il faudrait qu'on ait un cours d'égalité de sexe. C'est là qu'on va apprendre aux jeunes filles le leadership féminin. Et c'est là qu'on va apprendre aux garçons la masculinité positive. Ça doit commencer à la base, à la source. Donc ce sont les quatre axes de mon projet de société. Si vous voulez, on peut passer pour... je pourrais passer à votre émission pour les développer tous les quatre points. Mmh. Mais en grosso modo, c'est de ça que je vais parler ou sur ça que je vais me battre pendant mon mandat.
Et ça, c'est par rapport aux besoins de vos électeurs au niveau de votre circonscription électorale?
Absolument. Vous savez, c'est un problème qui est généralisé. C'est un problème qui est généralisé. Donc les problèmes qu'il y a à Mouamba sont les mêmes problèmes qu'il y a à Lukuga, sont les mêmes problèmes qu'il y a à Tchangou. En fait, c'est des problèmes qui sont généralisés. C'est juste que j'ai circonscrit mon action au niveau de Moamba, mais cette action-là aura justement des ramifications sur toute la République démocratique du Congo. Donc ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve partout.
Voilà, les mêmes problèmes qu'on retrouve partout. Madame Sonia, alors dites-nous, quel est votre projet de société?
Le mien, c'est surtout sur le développement. Vous voyez, moi, je suis en province, contrairement à Madame Caroline. Je suis à 350 kilomètres de Kinshasa.
À Boulungu.
La distance de Bruxelles-Paris, à Boulungu. Mmh. La distance de Bruxelles-Paris, et ça me prend 14 heures dans des conditions pas possibles. Et moi, j'axe sur le développement au profit de la femme, bien sûr, et des hommes. Aujourd'hui, on dit que la population double tous les 25 ans. Demain, nous serons 200 millions de Congolais dans 25 ans. Et ces Congolais-là doivent avoir accès à l'éducation. On doit leur donner des perspectives d'avenir. Si nous sommes 200 millions toujours dans cet état, alors c'est une bombe à retardement. Alors on axe plus sur le développement et sur les conditions de vie de nos populations.
Et quels sont les besoins de vos électeurs dans votre circonscription électorale? Quels sont les besoins qui ont été exprimés?
Le besoin, c'est d'abord de leur refaire l'état des routes et vraiment c'est...
Allô, Madame Sonia.
Si on oui, pardon, excusez-moi, c'est le réseau. Mm-hmm. Donc ici, nous sommes vraiment une province agricole, mais il y a un manque de courage au niveau de la population parce que l'état des routes pour acheminer tout ça. C'est un peu compliqué pour acheminer toutes les denrées. Mmh. Donc, ils ont besoin d'avoir des routes, d'accès aux routes principales. Manque d'électricité, le manque d'eau potable, c'est d'abord la première chose que la population veut. Ensuite, le développement viendra. Je pense que si on peut leur ouvrir l'accès à tout le pays, le développement viendra. Il y aura des banques qui viendront s'installer, des usines qui pourront s'installer demain, mais tout commence par le développement.
D'accord. Alors, un message à tous vos électeurs de Boulungu?
Bon, je demande à mes électeurs de Boulungu de pouvoir me voter massivement. Mes frères et mes sœurs, ils me connaissent. J'ai été avec eux pendant 5 ans, ces 5 ans de mon mandat au Sénat. Je connais leurs aléas. Et je pourrais aller les représenter valablement pour un Boulungu meilleur, une province du Kwilu encore meilleure.
Bien, merci beaucoup Madame Sonia Kamitatou, sénatrice. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, à la prochaine.
Bien, nous parlons de la participation politique de la femme dans le processus électoral. Nous avons en ligne Madame Miradel Mujingila Kundizambi. Bonjour Madame.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la part... D'abord, parlez-nous de votre parcours politique.
Donc, je réponds au nom de Madame Mujingula Kudinzambi Miradel. Je suis candidate à Moamba au scrutin national. Et c'est le numéro 466.
Bien, est-ce que vous avez déjà un parcours politique ou c'est la première fois que vous allez vous lancer dans la politique?
C'est la première fois que je vais me lancer dans la politique. Mmh. J'ai participé sur terrain, je suis une femme de terrain, je fais le travail de terrain. Pour moi, c'est la promotion de l'entrepreneuriat en fait. Et si vous lisez sur mes affiches, je continue à promouvoir l'entrepreneuriat. Et bon, par rapport à ça... Et la politique, je peux dire, elle est générale, elle est sur tous les axes. C'est pour cela, je peux dire, j'ai participé indirectement à la politique. Parce que la politique, comme vous le savez, elle gère tous les axes. L'entrepreneuriat est géré par la politique aussi. Mmh. Donc, il y a deux lois, en termes de lois, qui sont éditées, qui gèrent l'entrepreneuriat. Donc, il y a interdépendance entre les deux.
Voilà, bien. C'est ce que je peux dire. Voilà, vous avez décidé de vous lancer dans la politique et pourtant on dit souvent que les femmes n'osent pas, il n'y a pas assez de femmes qui participent, qui sont candidates. Par exemple, à la présidence de la République, on n'a que deux femmes sur les 26 candidats. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Par rapport à cela, ce que je peux dire, bon, Il faut avouer que dans un premier temps, les femmes étaient un peu réticentes. C'est une réaction qui était normale face un peu à la perception de la société à l'égard de la femme. La société a longtemps fait croire à la femme qu'elle n'a pas de capacité. La femme, c'est une incapable, elle n'a pas de capacité. Et pourtant, dans la femme, il réside un grand potentiel. C'est une personne imprévisible et elle peut faire des exploits plus que même les hommes. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous nous sommes dit, il faut qu'on se lève quand même, nous les femmes, et qu'on arrive à prouver au monde ce dont nous sommes capables, en fait.
Bien, est-ce que vous faites partie d'un, vous êtes dans un parti politique, nous savons qu'il y a un l'article 13 de la loi électorale a demandé aux partis politiques, à tous les partis qui vont aligner 50% sur leur liste ne vont pas payer la caution. Vous êtes une indépendante ou vous faites partie, vous êtes dans un parti?
Je fais partie d'un parti politique, je suis dans le groupement l'APPC, l'amour du prochain de la patrie Congo.
Et là, il y a beaucoup de femmes qui ont été qui se retrouvent sur la liste de votre parti.
Oui, il y a beaucoup de femmes. On n'a pas atteint 50%, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Nous sommes à 30 ou 40%.
Voilà. Et comment se passe la campagne électorale? Est-ce que vous avez assez de moyens pour mobiliser vos électeurs?
Bon. Dire qu'il n'y a pas de moyens, je peux dire, je ne peux pas trop me plaindre là-dessus. Puisque quand on a une passion, on a une mission, des objectifs à pouvoir atteindre. Moyens financiers ou pas, on peut avoir le moyen intellectuel de pouvoir véhiculer le message. Donc moi, je ne saurais pas m'attarder pour dire qu'on n'a pas donné de l'argent. Sans argent, on peut toujours faire atteindre ses objectifs, sans même quand on a la volonté de les faire, quand on a une mission à atteindre. Donc, nous sommes sur le terrain, nous défendons nos idées, comme je vous ai dit, moi je prône la création d'emplois, puisqu'à Moamba, comme vous le savez, les jeunes de Moamba, les femmes de Moamba, elles ne sont pas préservées, il y a le problème de chômage qui est là, qui bat son plein, les jeunes se plaignent, ils finissent les universités, il n'y a pas d'emploi, le chômage le rattrape, et d'autres se disent, mieux vaut quitter ce pays, aller ailleurs. Et moi, je dis toujours, et je leur toujours dis, et je le répète tout le temps, c'est pas ça la solution. On ne fuit pas chez soi pour aller envier ailleurs. Les problèmes qu'il y a, il faut trouver des solutions. Pour moi, il faut regarder ces problèmes-là comme étant des opportunités et trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc, moi, je prends la création d'emplois. Quand un jeune me dit, il n'y a pas d'emploi, je lui dis, bon, écoute, là, c'est l'emploi formel, les structures sont saturées, mais vous pouvez aussi créer sur base des études, sur base de l'intelligence, la connaissance que vous avez acquis à l'université. Vous pouvez créer aussi des emplois et employer d'autres personnes. Et c'est ça même qui a fait que je me suis tournée vers la politique aussi, puisque par rapport à ça, à côté de la création d'emplois, donc l'entrepreneuriat, oui. Il y a des jeunes qui essayent. Et quand ils essayent, il y a les lois qui sont en place qui ne les facilitent pas le développement. Notamment, ils rencontrent le problème des surtaxations, ils rencontrent le problème de la multiplicité de taxes. Il y a aussi le problème de l'ignorance des lois qui est là. Donc, c'est tous ces problèmes-là pour aider ces jeunes-là dans l'entrepreneuriat à pouvoir se développer. Il était important qu'on puisse se retourner aussi du côté de la législation pour voir un peu les lois qui puissent faciliter ces jeunes qui ont cette volonté de pouvoir créer, à pouvoir développer leurs entreprises et nous aurons le plein emploi en RDC.
Bien, Madame Caroline Pindi, vous êtes toujours là?
Oui, je suis là.
Alors, est-ce que vous avez pensé également dans les domaines de l'architecture? Est-ce que vous avez aussi des projets, des sociétés dans ces secteurs-là?
Oui, absolument, parce que aujourd'hui, vous savez que ce sont les étrangers qui sont privilégiés quand il s'agit des appels d'offres pour travailler ici en République démocratique du Congo, pour construire en fait les équipements de la République démocratique du Congo. C'est plus les étrangers qui sont favorisés. Alors qu'en fait, nous avons l'une des plus grandes écoles d'architecture de l'Afrique centrale qui sort plusieurs diplômés par an. Et c'est dommage que les pouvoirs en place ne fassent pas confiance aux architectes congolais. Et ça, il faudrait vraiment militer sur ça. Il faudrait que le gouvernement ou le pouvoir en place fasse confiance à la main-d'œuvre locale, fasse confiance aux architectes congolais, parce que c'est eux qui nous ont formés, c'est le Congo qui nous a formés. Il faudrait vraiment qu'ils nous fassent confiance pour que nous puissions leur montrer que nous pouvons faire revêtir en fait les capitales ou les villes de la République démocratique du Congo de leur plus belle robe.
Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer l'image ternie de la femme? Parce que dans la société, la femme politique est mal perçue. La société a un autre regard à l'égard, à l'endroit de la femme politique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer cette image ternie dans la société?
Il faut déjà qu'on arrête de véhiculer tout ce qui pourrait justement mettre l'accent ou favoriser justement ce genre de raisonnement. Je parle là des idéaux ou
des préjugés.
Des préjugés, voilà, les stéréotypes et les idées reçues. Il faudrait vraiment qu'on arrête à les véhiculer. Et de l'autre côté, il faudrait que la femme puisse se rendre compte qu'elle a un rôle à jouer dans le développement de son pays. Il faudrait que chacun à son niveau comprenne cela, que ce soit l'homme ou la femme. Et il faudrait que la femme arrive à briser le plafond de verre. Nous autres qui sommes parvenus quand même à postuler, c'est parce qu'on est arrivé à briser ce fameux plafond de verre. Il y a la société, les idées reçues, les traditions, les coutumes qui tirent la femme vers le bas. Alors, c'est à la femme elle-même de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir briser ce plafond de verre. Il ne faudrait pas se laisser absorber dans qui pourrait ternir justement ton image. Parce qu'en fait, tu as un rôle à jouer, tu as une mission particulière à accomplir. Et tu dois travailler pour le bien-être de ton pays. Mmh. Donc voilà un peu, voilà.
Madame Caroline, comment pouvez-vous vous distinguer de vos adversaires masculins sur la scène politique une fois élue?
Mais c'est justement parce que je suis une femme. C'est ça qui fait toute la différence. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Et quand on est une femme, on a beaucoup d'atouts que les hommes sous-estiment. Beaucoup d'hommes sous-estiment les femmes, alors qu'en fait, ils devraient plutôt avoir peur des femmes. Je suis une femme qui a déjà fait ses preuves à la société civile. Oui. Je suis une femme qui a fait ses preuves déjà dans ma profession. Donc, je me démarque de beaucoup d'autres hommes dans ma profession. Donc, ce qui fait qu'ils devraient plutôt avoir peur de moi. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Je veux plutôt leur prouver que les femmes aussi peuvent faire de grandes choses pour le pays.
On dit qu'en milieu politique, les hommes sont souvent machos. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout cela?
L'avantage, c'est que nous sommes déjà au courant de ça. Et c'est un grand avantage. C'est-à-dire que nous partons déjà en connaissant les points faibles de l'adversaire. Mmh. Ce qui fait que nous saurons comment déjouer toutes leurs actions qui pourraient être néfastes à notre candidature.
Bien, Madame Miradel, c'est la même question que je vous pose. Une fois élue, comment vous allez faire pour vous distinguer de vos adversaires masculins sur la scène politique? Madame Miradel.
Oui, c'est Madame Miradel. Je dis, c'est comme Madame Caroline vient de le dire tout à l'heure. Mmh. Comme nous connaissons déjà les aléas, nous connaissons déjà le contexte, nous savons à quoi s'en tenir. Et garder nos qualités, garder les yeux fixés sur l'essentiel, et jusqu'à atteindre l'objectif, on ne va pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Ils mettront des crocs en jambes, bien sûr, ils chercheront toujours à nous montrer d'ailleurs que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous à la hauteur de la tâche, de notre tâche, mais c'est à nous de défendre des idées, prouver de quoi nous sommes capables, montrer nos capacités, nos potentiels sur le terrain. Et les résultats en diront plus.
Voilà, les résultats en diront plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, au niveau des partis politiques pour que les femmes ne se retrouvent pas seulement dans les ligues des femmes, mais qu'elles occupent aussi des postes de décision, des responsabilités?
Nous allons continuer à les sensibiliser. Nous les sensibilisons, et ce que nous continuons à faire d'ailleurs, puisque si mon parti politique est venu me chercher sur le terrain, c'est parce qu'ils ont vu les preuves. Ils ont vu le travail que j'ai fait sur le terrain avec les enfants de la rue, avec les jeunes. Ils ont dit, tiens, madame, vous avez du potentiel. De la même façon que j'ai été sensibilisée pour pouvoir défendre, et même les électeurs, ils nous ont donné cette confiance pour dire, mais madame, tiens, voilà ce problème ici, vous êtes mieux placée à pouvoir nous aider. C'est de la même façon que nous allons continuer à aider ces femmes, continuer à les sensibiliser pour qu'elles arrivent à avoir confiance en leur potentiel. Moi, j'ai confiance dans le potentiel de femmes.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui pensent que les femmes se combattent entre elles? Vous verrez que beaucoup ne vont pas voter pour les femmes, préfèrent voter pour les hommes, etc.
C'est un problème de perception, en fait. Il faut savoir ce qu'on veut. Nous sommes aux élections. Nous votons les idées pour une mission, pour un objectif à atteindre. Mmh. Nous ne votons pas le sexe pour, je ne sais pas moi, faire la promotion de sexe ou de genre. Non, nous sommes en train de voter les objectifs, les idées, pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, si elles ont ça comme fondement, comme motivation profonde, des élections où nous voulons atteindre un objectif, atteindre un changement, atteindre un développement, elles feront les choix de manière impartiale, de manière neutre. Et des choix qui sont éclairés, des choix qui sont, je ne sais pas moi, raisonnés en fait.
Mmh. Bien, pour terminer, Madame Iradel, un message à tous ceux qui vous écoutent en ce moment, particulièrement à vos électeurs.
Ce que je dirais à la population de Moamba, nous avons étalé, nous avons exprimé nos idées. C'est à eux de faire le libre choix. Nous n'avons pas de polo, ça non. Nous n'avons pas de t-shirt d'argent de 5 000 francs. On va donner 5 000 francs aujourd'hui, 10 000, 10 dollars, 100 dollars. Ils vont manger aujourd'hui et demain. Le problème va continuer. Mmh. Donc, c'est question de voter les idées, de faire un choix libre et conséquent. Et le message que je lance à la population de Moamba, nous voulons le changement. Nous voulons le changement positif et le changement c'est sur base des idées.
Bien, Madame Iradel Mujingila Kundi Zambi, candidate à la députation nationale Moamba Kinshasa. Merci. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, d'accord. Madame Caroline, qu'est-ce que vous direz, vous allez dire aussi à vos électeurs, parce que on dit que lors de cette campagne, beaucoup de candidats n'ont pas assez de moyens, les partis n'ont pas libéré les moyens pour acheter les polos, les pagnes, etc., et donner des biens aux électeurs.
Oui, en fait, ce que je peux leur dire, c'est de faire confiance, en fait, à leur instinct, de ne pas se laisser avoir par les belles paroles et les finances de certains députés qui ont eu le temps de faire de l'argent lors de leur mandat. Alors, il faudrait vraiment qu'ils votent utile et qu'ils fassent confiance à leur instinct. Nous, on est là, on vient d'arriver et on a déjà travaillé pour le pays, pour le peuple, dans la société civile. S'ils veulent avoir des preuves, ils n'ont qu'à entrer dans les réseaux sociaux et à chercher. Ils auront des preuves. On a juste besoin qu'ils nous fassent confiance. Nous serons une nouvelle classe politique, de nouvelles personnes, et on a vraiment le souci de travailler pour la population. Qu'il y ait de l'argent ou pas, c'est bien dommage, parce que pour battre campagne, il faut des moyens, mais il faudrait vraiment aller avec la force qu'on a, et donner le meilleur de soi-même. Même sans argent, Dieu peut mettre sa main et les choses peuvent évoluer. Voilà.
Et si beaucoup de candidats se plaignent qu'ils n'ont pas de moyens, est-ce qu'on peut comprendre par là qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer?
Il y a ça aussi, mais vous savez, dans un pays comme le nôtre, se préparer, ça signifie quoi? Parce que déjà, un fonctionnaire ne gagne pas assez d'argent. Si tu veux vraiment te démarquer, comme on a vu, hein, c'est plutôt les hommes politiques, les personnes qui sont dans la politique, qui voient clair, qui ont des sous, ou les entrepreneurs. Donc, on n'a déjà pas assez d'entrepreneurs, et on a plus de politiciens. Il faudrait, quand on dit se préparer, c'est déjà compliqué, parce que déjà l'argent, comme ça, sur site, on n'en a pas. Mais il faudrait quand même avoir des petites économies et les mettre, les rassembler pour pouvoir rebattre campagne. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde, mais bon, si tu n'en as pas, va avec la force que tu as.
Bien, merci Madame Caroline Pindi, candidate à la députation nationale Moamba. Bonne journée et, oui. Et à la prochaine.
Merci beaucoup Tati.
Bien, on va accueillir Madame Nedil Bamwenga. Bonjour.
Bonjour messieurs, vous allez bien messieurs les journalistes?
Oui, nous allons bien, merci. Alors dites-nous, pouvez-vous nous parler de vous, de votre parcours politique, Madame Nedil?
Oui, je suis Madame Médiatrice Bamwenga, la coordonnatrice de la Ligue des Femmes, Parti politique Canadec, partie chère à Madame Suzy Badjoko Mgeni, qui est à Kinshasa pour le moment. Moi, je réside à Goma. Je suis, telle que je viens de le dire, la candidate au niveau du Nord Kivu, dans la ville de Goma précisément.
Bien. Alors, dites-nous, le sujet principal de cette émission, c'est la participation politique de la femme. Alors, comment, quel état des lieux vous faites de l'engagement des femmes dans la en politique aujourd'hui?
Oui, messieurs, ce que j'ai remarqué est que beaucoup de femmes ont des potentiels. Donc, ils ont des potentiels, au fait, mais elles n'ont pas de moyens. Ils ont des problèmes, des moyens pour la campagne, sur tout ça. Mais d'autres personnes n'ont pas pu vraiment céder à cette histoire de manque de moyens. Elles ont seulement continué comme ça. Elles se sont battues et le résultat est vraiment positif par rapport à cette histoire de manque de moyens. Ce que moi j'ai constaté, hein.
Ouais, parlez-nous
parce
par exemple
nous sommes vraiment nombreuses.
Ouais, parlez-nous de
oui,
vous.
Messieurs.
Vous-même par exemple là-bas au Nord Kivu, comment se passe la campagne?
De ma part, moi-même personnellement, je n'avais pas eu aussi des moyens, mais je me bats comme une femme. J'avais de base que j'avais préparé depuis 2019. Je passais de porte à porte, parlais comment quelle est l'importance d'abord de soutenir la femme à la députation, soit provinciale ou nationale.
Voilà,
et vous... qu'est-ce que la femme peut donner et qu'est-ce que la femme peut donner comme résultat par rapport aux hommes qui ont travaillé, qui nous ont précédés, par exemple.
Bien. Par exemple, au niveau du Nord Kivu, est-ce que il y a plus beaucoup de candidats, beaucoup de femmes qui se sont présentées comme candidates?
Nous sommes trop nombreuses. Nous nous retrouvons aussi dans des forums. Il y a des organisations qui organisent les formations, l'appui à la candidature féminine, des histoires comme ça. On se retrouve nombreuses, nombreuses, et les autres sont vraiment découragées par rapport à cette histoire de manque des moyens, manque de financement. Et les autres croyaient qu'elles auront des financements par rapport à la campagne, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, nous ne restons qu'avec 9 jours seulement, si je ne me trompe pas. Les autres sont toujours dans leur maison, elles ont promis beaucoup de choses aux gens suite à la concurrence. Et quand vous voyez l'autre en train de distribuer les pagnes, l'autre en train de donner les makayabou, l'autre en train de donner les haricots.
Oui.
Donc, vous n'avez rien, ou il y a d'autres personnes qui se cachent même dans leur maison par rapport aux promesses qu'ils ont données aux gens, qui n'arrivent pas à réaliser.
Oui. Parce qu'elles n'ont pas de moyens. Alors, parlez-nous de votre projet de société. Une fois élu, qu'est-ce que vous comptez changer ou apporter comme changement?
Moi, ce que je peux apporter comme changement, surtout à la jeunesse congolaise. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, les jeunes n'ont pas de travail. Et je me suis dit, une fois passé comme député provincial de la ville de Goma, je vais créer les emplois pour les jeunes, non pas seulement les engager, tout simplement parce que j'aurais pas où placer beaucoup. Ils sont nombreux.
Oui.
Les jeunes sont nombreux, donc... Je vais créer l'emploi pour la jeunesse et je vais aussi plaider pour la femme maréchale. Les femmes là souffrent beaucoup. Les maraîchères n'ont même pas le temps d'aller encore au champ, tout simplement par manque de la sécurité. Nous sommes dans une insécurité totale où la femme ne peut pas entrer dans les champs par peur d'être violée, peut-être par peur d'être aussi tuée. C'est ça. Donc j'ai tant de projets par rapport à l'insécurité. Je vais plaider pour ça.
Voilà, et vous avez parlé de l'emploi des jeunes. Comment comptez-vous alors créer ces emplois?
Je leur avais fait une promesse. Une fois passé comme député provincial, je vais créer les emplois. Par exemple, les cordonniers, les menuisiers, ils ont des potentiels. Il y a des menuisiers qui n'ont pas des outillages, par exemple. Il y a des machines qui coûtent trop cher, des menuiseries. Il y a des machines aussi, des cordonneries qui coûtent trop cher. Il y a d'autres choses, beaucoup de choses. Nous avons vraiment une grande tâche à réaliser, mais nous manquons seulement les moyens. Et c'est pourquoi nous avons supplié les jeunes de nous donner, de nous voter pour passer et plaider pour ça et réaliser d'autres projets que nous avons envers eux.
Bien, Madame médiatrice, dites-nous qu'est-ce que qui doit être fait pour encourager beaucoup plus les femmes, les jeunes filles à s'engager sur le plan politique.
Moi, j'ai pensé que les femmes et les filles doivent avoir l'appui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes telles que j'avais dit là, les femmes ont beaucoup de potentiel. Et les filles, elles sont capables au fait, mais il manque seulement l'appui. Moi, je peux dire politiquement, il faut appuyer ces femmes. Et matériellement aussi. Et pourquoi pas moralement?
Bien, parce qu'il y a aussi un problème dans la société. Il y a certains ont une mauvaise image, ils ont des préjugés sur la femme politique. On dit que la femme qui se lance en politique, c'est une femme légère, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour changer tout cela?
Oui, monsieur, nous-mêmes, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous sommes jugés de tout, mais quand on s'engage, on ne regarde pas les préjugés. Vous avancez vers l'objectif. Ce que je peux conseiller la société, il y a ceux-là qui disent que la femme ne peut pas parler là où les hommes sont en train de parler. La femme n'a rien à décider quand un homme décide. C'est donc ça affaiblit aussi beaucoup de femmes, ça décourage beaucoup de femmes. Vous savez, nous sommes des Africains. En Afrique, nous avons la culture que la femme ne peut rien faire. Vous voyez?
Oui.
Donc la femme n'a rien à dire là où les hommes se trouvent. Et il y a d'autres femmes qui peuvent nous aider dans la société, mais quand elles mettent seulement cette histoire dans leur tête que la femme ne perd rien, donc elles sont directement anéanties. Donc je peux dire aux gens, à la société, d'aider les femmes pour qu'eux aussi puissent avancer.
Bien, pour terminer, Madame Médiatrice, un message rapidement à tous vos électeurs.
Merci beaucoup. Je peux dire à la population de Goma de voter massivement et de voter surtout utile. De ne pas voter les haricots, les pagnes, l'argent, les polos, t-shirts et autres. Voter utile, voter la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est juste ça.
Merci Madame Médiatrice Bamwenga, candidate députée provinciale du Nord Kivu. Excellente journée et à la prochaine.
Merci messieurs. Merci messieurs les journalistes.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dieudonné Nyangassa était à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation. Au micro, aujourd'hui, Daniel Kachama. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.